Bien, nous allons prendre nos Bibles de nouveau et regarder dans Hébreux chapitre 12. Mon texte est à partir de verset 2 jusqu'au verset 4. Et je voudrais vous parler sur ce thème, regarder à Jésus. Qu'est-ce que c'est regarder à Jésus? Ici, l'instruction que nous recevons, dans le verset 2, c'est écrit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Alors, nous avons déjà vu à travers nos études, surtout dans Hébreux 11, que la foi dont la Bible parle a comme objet la personne du Seigneur Jésus et son œuvre. Partout dans la Bible où vous voyez ce terme, la foi, c'est la révélation de Christ de la part du Saint-Esprit aux élus de Dieu, ce que Dieu a choisi depuis l'éternité. Et la foi, c'est cette révélation de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas, comme beaucoup prétendent, croire que c'est une croyance personnelle que nous avons en ce qui concerne Jésus et que c'est l'homme alors qui agit dans cette foi. Non, c'est Dieu qui agit. À part l'œuvre de la grâce de Dieu en Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit, personne ne pouvait connaître le Seigneur Jésus-Christ. Donc, avoir la foi, comme nous avons vu la dernière fois, qu'est-ce que c'est vivre une vie de foi? C'est de vivre une vie que Dieu donne au pécheur qu'il a choisi. Et cela vivre selon cette foi qui leur a été donnée, cette connaissance du Seigneur Jésus-Christ, cette révélation du Seigneur Jésus-Christ. Alors ici, nous avons dans ce texte une bonne définition de ce que c'est regarder à Jésus. Et il n'y a que deux points que je voudrais souligner dans cette étude. Premièrement, dans le verset 2, il faut des yeux pour voir. Donc, le verset 2 nous explique ce que c'est d'avoir des yeux donnés par l'Esprit de Dieu. Et ceux qui ont ces yeux spirituels ont le regard fixé sur le Seigneur Jésus, uniquement, ayant les regards sur Jésus, nulle part ailleurs. En ce qui concerne notre rédemption, les regards sur Jésus. En ce qui concerne notre justification devant Dieu, les regards sur Jésus. Ce n'est pas une combinaison entre ce que Jésus a fait et puis ce que l'homme contribue, non. Ayant les regards sur Jésus. Dieu a fait nos yeux de sorte à ce que nous ne pouvons pas avoir les regards sur un objet et puis en même temps avoir les regards ailleurs. Non, c'est fixé sur le Seigneur Jésus. Et qui dit Jésus, dit le Sauveur. C'est ce que Dieu a révélé à Joseph, que le Fils qui était donné à Marie, cette conception qui est venue de l'Esprit, qu'il devait être appelé Jésus car il sauvera son peuple de ses péchés. Ça ne dit pas qu'il tentera de sauver ou bien essaiera de sauver, non, il sauvera son peuple de ses péchés. Donc ça, c'est le premier point que nous allons considérer. Regarder à Jésus signifie avoir le regard spirituel fixé sur Jésus uniquement, nulle part ailleurs. Ça, c'est pour la rédemption, c'est pour la justification, c'est pour notre sanctification devant Dieu et c'est pour notre glorification. Nulle part ici, nous ne voyons une œuvre de l'homme contrisant. C'est fixé sur Jésus. Et puis le deuxième point que nous allons considérer, c'est dans les versets 3 et 4. Ayant ses yeux donnés pour regarder à Jésus, nous considérons donc ses souffrances. C'est la personne du Seigneur Jésus que nous voyons dans le verset 2, et puis ce qui suit dans le verset 3 à 4, c'est son œuvre accomplie, ses souffrances. Et voilà ce qui sert d'encouragement pour ceux qui vivent cette vie de foi que Dieu donne à ses enfants, afin que, comme c'est écrit à la fin du verset 3, vous ne vous lassiez point l'âme découragée. On a beaucoup de raisons d'être découragé quand on considère cette âme pécheresse qui est en nous, cette chair qui est en nous. Et voyons aussi le mal qui existe dans le monde et l'opposition que ceux qui appartiennent à Christ doivent subir à cause de la gloire de Christ dans ce monde. Beaucoup de raisons de se lasser ou bien se décourager, mais non pas en regardant en Christ, considérant que Christ est le représentant devant le Père. Il est l'avocat pour ce que le Père lui a donné. Donc, ayant les regards sur lui et sur son œuvre accomplie, voilà ce qui fortifie l'enfant de Dieu dans cette vie de foi que Dieu nous a donné à vivre aussi longtemps que nous vivons dans ce monde et dans cette chair. Alors revenons dans le verset 2 et considérer ce que c'est regarder à Jésus. Une autre manière de comprendre cela, c'est ayant les yeux fixés, l'idée de fixer complètement sur Jésus. Encore, rappelons-nous que l'auteur ici de cette épître est en train d'illustrer cette vie de foi comme une course. Quel coureur qui court, qui n'a pas ses regards fixés sur la ligne d'arrivée, si vous voulez. Il n'est pas en train de courir en train de regarder ceux qui applaudissent à côté, ou bien ayant regard sur d'autres qui sont à côté lorsqu'ils courent. Non, ayant les regards sur Jésus, nous ne pouvons pas courir cette course si nos regards ne sont pas fixés sur le Seigneur Jésus, c'est-à-dire tel qu'il est révélé dans les Écritures. Lorsque nous sommes abattus, lorsque nous sommes découragés, fatigués dans cette course, nous reprenons cette parole que nous sommes en train d'étudier maintenant. C'est la parole de Dieu. Et c'est la parole qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ainsi que nous nous fortifions. Dans le grec ancien, regarder vers Jésus, utilise un verbe qui implique un regard défini, loin des autres choses, et un regard continuel à Jésus. Donc voilà la persévérance. Et c'est Ça que l'Esprit donne à ceux qui appartiennent à Christ et pour qui il est venu dans ce monde donner sa vie. Ici, ce n'est pas simplement une question de regarder à Jésus comme notre exemple. Il y en a qui comprennent ce passage disant que, voilà, nous devons avoir les regards sur Jésus qui est notre exemple et maintenant nous devons tenter de suivre son exemple de la manière que Jésus a vécu sa vie. Voilà, c'est de cette manière que nous devons vivre. Mais si on avait la capacité, le pouvoir de vivre cette vie que Jésus a vécue, donc le Seigneur Jésus ne serait pas venu. Il n'aurait pas accompli, ça ne serait pas nécessaire pour lui de venir comme substitut. Mais ici, il s'agit pas simplement d'avoir les regards fixés sur Jésus comme un exemple, mais plutôt comme un substitut. Imaginons dans un match de football, lorsqu'il y a des substitutions, celui qui substitue, il prend la place d'un autre. Il y a un certain nombre de joueurs, mais s'il y a un qui devient fatigué et qui ne peut pas jouer, alors on l'enlève et on place un substitut à sa place. Nous savons que, étant des pécheurs, nous avons déjà échoué depuis Adam. Donc, Dieu le Père a ordonné à ce que son Fils vienne dans ce monde, pas de servir d'exemple pour nous maintenant de suivre, mais d'être ce substitut qui devait venir et accomplir en chaque aspect de la loi et la justice de Dieu ce qui était nécessaire que nous n'aurions pas pu accomplir. Et c'est pourquoi ici, ayant les regards sur le Seigneur Jésus, il est décrit dans le verset 2 comme le chef et le consommateur de cette foi. Cette foi qui a comme objet le Seigneur Jésus, c'est comment nous pouvons savoir que c'est une véritable foi donnée par Dieu. C'est que le Seigneur Jésus, qui est le véritable objet de la foi, est notons le chef et le consommateur de la foi. Ce Jésus populaire ou moderne que les gens prêchent aujourd'hui, c'est pour cela que nous savons que ce n'est pas le Christ de la Bible. Parce que le Jésus qui est présenté, et là je note le petit J en Jésus, ce n'est pas le majuscule Jésus, mais un petit Jésus qui dépend de l'homme pour accomplir son œuvre. Ça, ce n'est pas celui qui est l'objet de la foi que nous voyons ici. Le Seigneur Jésus est considéré comme le chef et le consommateur de la foi. C'est ce que signifie le mot Jésus, le Sauveur. Et étant nommé et envoyé par Dieu pour être le Sauveur, pas de tout le monde. Ce n'est pas qu'il est venu essayer de donner sa vie pour tout le monde, mais hélas, ce n'est pas tous qui croient, non. Il est venu pour devenir l'auteur du salut éternel, le chef et le consommateur de la foi. Donc c'est à lui seul qu'il revient la gloire. Et c'est lui seul, ce Jésus-ci, qui est l'objet de la foi de ceux qui sont véritablement enfants de Dieu, par sa grâce et son œuvre d'élection, de rédemption et du salut. Alors, voilà celui qui est l'objet de nos regards lorsque l'Esprit de Dieu donne ses regards. Quand on parle du salut, c'est écrit le chef et le consommateur de la foi. Et que Jésus, le sauveur, est l'objet de cette foi. Il faut savoir que le Seigneur Jésus qui sauve, lorsque la Bible présente le salut, c'est sous trois aspects. Aujourd'hui, quand les gens nous posent la question, mais quand est-ce que vous avez été sauvés? Et souvent, les gens donnent ces témoignages d'un moment donné où ils ont pris une décision pour suivre le Seigneur, ou suivre le Jésus qui leur a été présenté plutôt. C'est pas le Seigneur, mais ça c'est pas le salut. Le salut n'est pas accompli par une décision de l'homme quelconque. Non, le salut est entièrement en ce Jésus à qui nous avons le regard. Donc si quelqu'un me demande, mais quand est-ce que vous avez été sauvé, je peux répondre de cette manière. J'ai été sauvé par la grâce souveraine de Dieu. Donc ça c'est mon témoignage du salut dans le passé et que je suis présentement l'objet du salut, c'est-à-dire que celui qui m'a sauvé, c'est celui qui me garde dans ce salut. Donc, présentement, je suis en train d'être sauvé. Et je peux répondre aussi, troisièmement, que je serai sauvé. Dans le sens futur, ma confiance d'être sauvé pour l'éternité est basée sur ce que Dieu a déjà accompli en ce qui concerne mon salut dans son élection. Lorsqu'il m'a choisi, c'était en vue de mon salut. Et lorsque Christ est venu donner sa vie à la croix, c'était pour accomplir ce salut. Et l'espérance que j'ai pour être sauvé pour l'éternité est aussi dans ce même sauveur qui a accompli mon salut. Nous voyons ça, ces trois aspects, surtout dans 2 Corinthiens et le chapitre 1, le verset 10, lorsque Paul a écrit aux Corinthiens, notons les termes qu'il utilise ici, ces trois instances du salut. Premièrement, il dit, dans le verset 10, c'est lui qui nous a délivrés. Quand on parle du salut, c'est la délivrance. Notons la manière que c'est écrit, nous a délivrés. Et deuxièmement, il dit, et qui nous délivrera d'une telle mort. Donc, celui qui l'a délivré, par sa grâce, il délivre, il continue à délivrer de la mort, surtout du jugement dans la mort. Mais notons le troisième aspect dans le verset 10, 2 Corinthiens 1, 10, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Donc passé, présent, futur, voilà le salut. Et notons, c'est tout dans la personne de Christ, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera. Notons comment le verset commence, c'est lui. On ne parle pas d'une décision personnelle de l'homme en choisissant d'être délivré, non. Nous n'avons aucun choix. Nous sommes morts dans nos péchés, mais c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera encore, grâce à son œuvre. Voilà le Jésus sur qui nous avons les regards fixés. Et ceux à qui Dieu donne ses yeux spirituels pour voir, c'est comment Revenons à notre texte, dans Hébreux chapitre 12. C'est comme ça qu'ils ont les regards fixés sur le Seigneur Jésus, le véritable. L'Esprit ne va pas diriger le regard d'une âme sur autre objet que le Seigneur Jésus. C'est pourquoi quand nous entendons des gens parler de leur profession de foi, et ils témoignent comme si Jésus a fait sa part, mais maintenant c'est à eux d'accomplir, faire leur part, nous pouvons immédiatement savoir que ce n'est pas une véritable foi. Ça ce n'est pas l'œuvre de l'Esprit qui agit ainsi. Comme nous lisons ici dans le verset 2, l'auteur et le consommateur de la foi. C'est lui qui est l'auteur comme la cause efficiente, c'est efficace. C'est lui qui est l'auteur. Tous les hommes sont par nature sans cette foi. Dès que nous sommes nés dans ce monde, nous n'avons pas cette foi. Nous avons besoin du Christ qui est l'auteur, celui qui est la cause efficace. Ce pouvoir n'est pas en l'homme. Et encore, c'est une œuvre de toute puissance de Dieu, de sa grâce souveraine de Dieu. Ça démontre non seulement l'extrême gravité du péché dans lequel nous nous trouvons, mais aussi l'extrême grandeur de la puissance de Dieu, cette opération de Christ par son esprit, qu'il révèle dans les cœurs de ceux que Dieu a ordonné au salut. Oh, voilà l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Et l'évangile, qui dit l'évangile, dit Christ. Mais non seulement le chef, mais il est le consommateur, celui qui finit. Ce n'est pas que ce Jésus révélé comme objet de la foi nous démarre dans cette foi et puis après c'est à nous d'achever, non. Consommateur signifie celui qui achève ce qu'il a commencé et qui garantit, celui qui est le garant dans le salut du début jusqu'à la fin, afin que le salut soit efficace. Et c'est pour ça que Christ est venu. Notons, lorsque nous continuons dans le verset 2 d'Hébreux 12, en vue de la joie qui lui a été, ou qui lui était réservée, ce n'est pas que notre Seigneur Jésus considérait la croix elle-même comme une joie. La croix représente la souffrance pénible qu'il a dû endurer à cause du péché de son peuple que le Père lui a donné. Donc ce n'était pas de la croix qu'il avait en vue cette joie, mais il regardait au-delà de la croix et de l'horreur de cette souffrance pour voir le résultat. Et la joie qui lui était réservée, c'était la satisfaction de son Père ayant accompli parfaitement la loi et la justice que Dieu demandait, exigeait du pécheur. C'est lui qui a accompli cela, et la joie était d'avoir ce peuple comme rémunération. C'est-à-dire, le Père lui a donné ce peuple et a été honoré à travers l'œuvre de Christ. Voilà la joie qui était pour lui, à tel point où Christ a dit que de tous ceux que le Père lui a donné, il ne perdrait aucun de cela. Voilà le salut. Et donc, ça c'est ce qu'il voyait comme cette joie qui lui était réservée. Mais ça exigeait à ce qu'il souffre à la croix. Et encore, la croix a pour objet la personne de Christ, mais aussi sa mort, sa souffrance à la croix. Il a dû endurer cette croix. Il n'y avait pas d'autre manière pour que Dieu soit juste tout en justifiant ce peuple si ce n'était à travers la croix. Mais ici, nous voyons que le Seigneur Jésus a pu endurer l'épreuve de la croix parce que il savait que c'est ce que le Père exigeait pour que son peuple soit racheté. Donc, dans cette vue, Christ lui-même, qui ne cherchait autre gloire et honneur que celle de son Père, c'est ainsi qu'il a enduré la croix. Et le bien qui devait surgir de sa souffrance, non seulement de sa mort, mais sa résurrection. Comment est-ce que nous savons que Dieu le Père a accepté la souffrance du Christ à la croix? C'est parce qu'il a ressuscité. Voilà la preuve que Dieu était alors satisfait. Et voilà tout le bien qui devait alors découler. Christ ne devait pas être découragé à la fin comme les gens le présentent, que voyez, il est venu donner sa vie, mais maintenant, hélas, les pécheurs ne croient pas en lui, donc il n'arrive pas à avoir cette joie qui lui a été réservée. Non, chacun pour qui Christ est mort, c'est cette mort de Christ, la souffrance à la croix, qui assure son salut. Et c'est pour ça, c'est en vue de cela que le Seigneur Jésus-Christ a vécu une vie de sainteté devant son Père, et c'est en vue de cela qu'il a donné sa vie pour payer la dette de ceux qui devaient sauver. C'est pourquoi il a gardé sa langue. Et c'est pourquoi il a persévéré dans cette foi en vue de cela. C'est pourquoi il a gardé cette joie de voir la fin de l'honneur de son Père. Et c'est pourquoi son amour pour ses pécheurs, même qu'ils étaient pécheurs, mais c'est son amour, il les a aimés jusqu'au bout. Tout cela, c'est ce qui l'a conduit à la croix. Et c'est écrit ensuite, dans le verset 2, mépriser l'ignominie. L'ignominie signifie la honte. Quand on considère les éléments les plus saillants en ce qui concerne la torture de la croix, c'était la manière la plus honteuse pour quelqu'un de mourir. Mais en tout cela, le Seigneur Jésus ne s'est jamais retiré de cela ou cherché autre voie. Non, il a pu endurer, mépriser cette honte. Le sens là, c'est d'accueillir cette honte et l'endurer à cause de la gloire de son Père. C'était à tel point qu'il aimait son Père. Bien sûr, il aimait les pécheurs d'un amour qui ne changeait pas, que le Père lui a donné, mais principalement, c'était l'amour pour son Père qui l'a poussé à aller jusqu'à la croix. Et cette honte qu'il a dû endurer, nous pouvons voir les accusations honteuses de blasphème. Ils ont blasphémé le Seigneur Jésus, puisqu'il disait qu'il était le Fils de Dieu. Les moqueries honteuses. Et tout ce que les pécheurs ont pu jeter contre lui, mais je crois que la plus grande honte n'était autre que la malédiction du péché. Ce n'était pas son propre péché, mais il était chargé, comme c'est écrit dans Ésaïe 53, du péché de ce peuple que le Père lui a donné. Et voilà la honte qu'il a dû endurer. Mais c'était en vue d'accomplir la rédemption et la justification de ce peuple que le Père lui a donné. Et comment nous savons que le Père a accepté cette œuvre accomplie? Voilà encore ce qui doit nous encourager. Si nous sommes de ce nombre pour qui Christ est mort, et voyant ce qu'il a enduré, c'est écrit à la fin du verset 2 qu'il s'est assis à la droite du trône de Dieu. La droite, à la droite, ça représente la place d'honneur réservé au Seigneur Jésus. Et c'est écrit qu'il s'est assis. La signification de ce mot, c'est que l'œuvre était accomplie. Dans le tabernacle et le temple, les sacrificateurs sous l'ancienne alliance n'étaient jamais assis parce que leur œuvre n'était pas encore achevée. Mais lui, il s'est assis. Cela nous démontre qu'il n'a plus rien à ajouter à cette œuvre de Christ. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Cela parle de la glorification de Jésus. Et voilà pourquoi nous pouvons espérer, sachant que Christ est assis là comme intercesseur, comme celui qui est notre médiateur. Et c'est au ciel, à la droite du trône de Dieu. Cela exprime la majesté et la gloire de Dieu et l'honneur fait à Christ, non seulement dans sa nature humaine, mais aussi maintenant, ayant toujours ce corps. Il est monté au ciel de la même manière qu'il est venu. Il n'a pas laissé son corps pour monter au ciel, mais il est assis là comme le médiateur présentement. Il y a un homme qui est au ciel, ayant fini l'œuvre que le Père lui a donné, et donc le médiateur des pécheurs pour qui il est mort. Donc ça c'est le premier point en ce qui concerne cette foi. C'est le Seigneur qui donne des yeux pour voir Christ de cette manière. Mais deuxièmement, comme nous avons déjà cité, des yeux donnés pour voir et considérer ses souffrances. Ça, c'est le mot qui est utilisé dans le verset 3. Considérer, en effet. Donc, dans le verset 2, avoir les regards sur Jésus, le seul objet maintenant, ça fait réfléchir. Le sens du mot considérer, c'est de peser dans nos cœurs et dans nos esprits celui qui a souffert de cette manière. Comme c'est écrit ici, considérer en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Lorsque nous sommes découragés, voyant l'opposition, surtout du monde religieux, contre ce message de Christ et contre ce témoignage qu'il nous a donné, au lieu d'être découragés et laisser l'âme découragée, la solution, le remède, c'est de considérer ce que Christ a supporté et de savoir que tout ce qu'il a supporté, c'était pour mes péchés. S'il est mort pour moi, donc c'est pour mes péchés. Cette opposition de la part des pécheurs, c'était, ils étaient mes représentants. Je n'étais pas là, mais ils représentaient ce que moi-même, cette inimitié qui est en moi contre lui jusqu'à ce qu'il me fasse grâce pour que je puisse le connaître. Donc, même dans nos temps les plus difficiles, voilà le point d'encouragement pour ceux qui appartiennent à Christ. Nous considérons Jésus et nous sommes alors encouragés, sachant qu'il a tout supporté dans sa mort pour un pécheur tel que je suis. Quand on réfléchit à toute l'hostilité que le Seigneur Jésus a enduré de la part des pécheurs, et là je dois dire de ma part, parce qu'il a enduré tout cela à cause de mes péchés. Pensons au temps qu'il était même dans le synagogue à Nazareth, où il a grandi et les gens voulaient le tuer, parce qu'il a lu les Écritures et a dit, aujourd'hui, cela est accompli devant vous. Considérons aussi ce qu'il a dû supporter de la part des chefs religieux qui cherchaient constamment à le piéger ou de l'embarrasser. Tout cela, lorsque nous sommes ainsi attaqués par les hommes, ça ne doit pas nous surprendre. Considérons ce qu'ils ont fait de notre Seigneur Jésus, comment ils ont menti au sujet de Jésus, disant qu'il était un ivrogne ou bien un glouton. Ça ne doit pas nous surprendre lorsque les gens nous traitent de pécheurs devant leurs yeux parce que nous ne suivons pas leur roi et leur règlement. Il était trahi par un de ses propres disciples. Je sais que parfois ça nous décourage lorsqu'il y a des gens qui nous suivent pendant un certain temps et il semble qu'ils sont attachés au message de l'Évangile et puis ensuite ils tournent dos et ils quittent, et non seulement ils quittent, mais ils commencent à nous lancer toutes sortes de paroles contre notre personne. Mais nous méritons, quand les gens nous lancent des injures, des insultes, je pense souvent que je remercie le Seigneur qui ne savent même pas la moitié de ce qui est dans ce cœur. Mais Christ n'a rien fait. Vous méritez de telles opprobres jusqu'au point d'être trahi par un de ses propres disciples. Mais même en cela, cela n'a pas surpris le Seigneur Jésus. Il a dit, je vous ai choisi, mais un de vous est le fils de perdition. Sachant toutes choses, il faisait face à la croix, parce qu'il a ordonné toutes choses. Et il a été moqué et battu dans sa souffrance. Non seulement il y avait les souffrances physiques de la part des hommes, mais les souffrances spirituelles, parce que il devait supporter le péché de son peuple dans son esprit et dans son âme. Quand le peuple criait contre lui, crucifie-le, ils étaient en train de dire qu'il meurt comme le pire des pécheurs, pourtant il était sans péché. Mais plus que tout autre, comme je disais, la honte qu'il a dû supporter n'était autre que le péché, s'identifiant avec ce péché que le Père lui a donné et que ce péché a été imputé. Il n'était pas devenu pécheur, mais ce péché lui a été imputé à son compte. Et tout cela, il a dû supporter afin qu'il soit le sauveur. Et c'est ainsi, maintenant, nous voyons l'encouragement pour nous dans le verset 4, afin que nous ne lassions point et que nos âmes ne soient pas découragées. Voilà un point à considérer. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Oh oui, nous sommes tentés et la nature de notre chair, c'est de chuter. se soumettre à la tentation, nous ne pouvons pas endurer, nous ne pouvons pas résister à nous-mêmes. C'est pourquoi si le salut dépendait de notre capacité de pouvoir résister au péché, alors personne ne serait sauvé. C'est clair, vous n'avez pas encore résisté au péché. C'est pourquoi il nous faut un représentant. Et surtout jusqu'à la mort. Mais Christ a pu résister. Non seulement les attaques des hommes, mais les tentations du diable et tout ce que Satan voulait utiliser pour le piéger, il a résisté jusqu'à la mort. Cela nous montre que le Seigneur Jésus-Christ était parfait, non seulement en parole et acte, mais en pensée. Voilà ce qui était nécessaire pour que Dieu soit juste pour justifier. Le sens ici, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Aucun de nous ne peut dire qu'il a pu lutter contre le péché et ses tentations. Voilà notre plus grand ennemi, c'est le péché. Mais c'est Christ qui l'a accompli. Voilà le sens du verset 4, en luttant contre le péché. Et heureusement, parce que c'est alors par son œuvre, par son obéissance parfaite, jusqu'à la mort, que le salut maintenant est accordé à ceux que le Père lui a donné. Ah, quelle assurance nous avons dans ces quelques versets pour tout véritable enfant de Dieu. Ceux que Dieu a sauvés par sa grâce et qui sauve, il préserve dans ce salut et il sauvera certainement dans l'éternité. Que son nom soit béni. Amen.